Il est 7 heures en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette reprise des webcasts. Nous avons ce soir un présentateur qui va introduire notre thème et la situation.
Bonsoir à tous, bonsoir Rinpoche, bonsoir à toute l'Assemblée. Alors, la situation est celle-ci. Le thème de ce soir, c'est le dharma et la vie, et donc pas le dharma et la vie, mais bien le dharma et la vie, EST. Donc, si le dharma est la vie, le dharma est aussi sa vie, à soi, et en fait, on peut être un peu parfois stressé, gêné, timide, surtout face au lama, surtout dans une assemblée où on s'attend à certains types de questions. On a parfois peur de poser des questions qui sont d'un ordre plus intime, plus direct, plus cash, dirais-je. Et le souhait de Rinpoche est aussi d'ouvrir ce dialogue direct, sans filtre et sans empoulage, si je me fais comprendre, sans que ce soit trop formel et plus direct. Donc, que ce soit dans la salle, ici, ou sur Internet, de vous encourager de poser des questions qui sont en rapport direct avec votre expérience quotidienne, avec ce qui vous tient vraiment à cœur et donc dans votre vie telle que vous la vivez. Donc j'avais déjà fait cet appel hier et il y a quelques personnes qui m'ont donné quelques questions anonymes.
Très bien.
Elles ont souhaité rester anonymes et je pense que sur Internet c'est possible aussi de rester anonyme et comme ça de pouvoir peut-être poser des questions qui sont plus proches de son cœur et moins engageantes.
Tout à fait, tout à fait. Et nous avons choisi pour cette série qui va s'inscrire dans un ensemble, aussi de prendre comme référence un vieil ouvrage, le Dharma et la vie, ET. En la circonstance, on a transformé le ET en EST. Le Dharma, c'est la vie. Le Dharma, c'est l'apprentissage de la vie. C'est la vie saine. Ce petit livre, qui est le premier que j'ai fait il y a maintenant bien longtemps, et des réponses simples qui avaient été faites à un jeune journaliste, jeune à l'époque, Philippe Kernform. Et c'est dans ce même esprit de dialogue et donc de réponses aussi aux frequently asked questions, aux questions que l'on se pose régulièrement ou habituellement, que nous allons aborder cette série. Donc, sentez-vous très libre et que nous puissions avoir un échange ouvert de cœur à cœur. Sacha, merci. S'il vous plaît, alors dites-nous.
Alors, ce que j'ai reçu dans la boîte à questions directe et anonyme, c'est donc la première. Est-ce que le détachement coupe le désir sexuel? Si oui, est-on vraiment heureux sans?
Est-ce que le détachement coupe le désir sexuel? Et si oui, est-on vraiment heureux sans? Alors, c'est une question complexe. Il y a le détachement, le désir sexuel, et ensuite la question de ce que serait le désir sexuel dans le détachement ou sans attachement, et si celui-ci est source de bonheur et de bien-être. Donc ça fait quatre points. Alors, d'abord, le détachement et la question est intéressante parce que elle semble considérer que le détachement soit une qualité qui vienne de la pratique. Le détachement est un poison de l'esprit. Il y a trois poisons de l'esprit qui sont, on peut dire, attraction, répulsion et indifférence. Et ce que l'on entend communément par détachement est une forme d'indifférence. Trois poisons de l'esprit, attraction, je veux, la possession, l'avidité, non, possessivité. Deuxième poison, la répulsion, je ne veux pas, non. Et avec la répulsion, il y a tout ce qu'il peut y avoir en termes de colère aussi, de haine et de rejet. Et troisième poison, l'indifférence. Je ne veux pas savoir. Ça m'est égal. Ça m'indiffère. Je m'en super tamponne. Donc, le détachement comme indifférence est un poison de l'esprit et un poison de l'esprit dangereux parce qu'il est subtil d'une part, plus subtil que l'attraction grossière ou la répulsion grossière, et aussi pernicieux car il est somme toute souvent des pratiquants du dharma qui auraient tendance à pratiquer le détachement ou à considérer le détachement comme une vertu ou comme une qualité, alors que c'est un poison. Je ne suis pas attaché. Je ne suis pas attaché. Zen, cool, tranquille. Il est important de faire bien la différence entre détachement et non-attachement. Alors vous allez dire, oula, ça n'est pas joué sur les mots. Le détachement est une attitude d'attachement à l'indifférence. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas être perturbé, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre. Alors que le non-attachement est un état en lequel l'on est attaché à rien. Il n'est pas d'attachement ni dans la possession, ni dans la répulsion, ni dans l'indifférence. Le véritable non-attachement est un état simple de réceptivité, de disponibilité, sans résistance, sans attachement dans un sens ou dans l'autre, simplement présent, réceptif, disponible. Donc, entendons bien cette différence très importante entre détachement et non-attachement. Alors, deuxième point, le désir sexuel. le désir sexuel se situe d'une façon générale comme un désir, une pulsion pour satisfaire un manque, un besoin, je vais parler d'une pulsion sexuelle. La pulsion sexuelle est quelque chose de naturel. Nous sommes mammifères que nous sommes des animaux sexués et la pulsion sexuelle est une des dynamiques physiologiques de notre constitution. Il pourrait être pertinent de faire une distinction entre la pulsion sexuelle simple et ensuite le désir fantasmatique ou le désir tel qu'il est instrumenté par le mental avec toutes les projections, les fantasmes. La question serait comment bien gérer la pulsion sexuelle. Ou, dit autrement, d'une façon simple, de la sexualité juste. Donc, la sexualité en soi est, je le répète, naturelle et quelque chose de bon, de normal, de sain, mais qui constituant une pulsion archaïque extrêmement profonde, extrêmement forte, peut facilement et habituellement devenir le support de toutes les formes de passion de l'esprit, dans la possession, dans l'avidité. Après, il peut aussi y avoir des aspects d'agression. Et aussi d'indifférence. La sexualité juste, juste au sens d'harmonieux, peut se comprendre d'abord dans le contexte d'une discipline de vie. Les pratiquants que vous êtes sont pour la plupart, je pense, familiers avec les 5 préceptes. Et le 4e de ceux-ci traite justement de la sexualité harmonieuse, qui, sauf si l'on avait pris pour une raison particulière pendant un certain temps un engagement de célibat, consiste à vivre sa vie sexuelle dans l'amour et la stabilité. L'amour signifiant une empathie altruiste, bienveillante. Je ne parle pas d'un amour possessif, un amour d'attachement qui, comme toute possession et possessivité, est source de problèmes. Mais un amour d'empathie. Un amour d'empathie et une stabilité. Qui évite des attitudes instables, volages, et qui favorise justement passion et des problèmes. Donc, il y a ainsi cette première dimension de la vie sexuelle, et il serait bien de développer ce précepte. Nous l'avons fait récemment, je vous renvoie à ce que nous disions. Maintenant, la vie sexuelle en relation, alors, par rapport au détachement, ce serait de l'indifférence eu égard à son partenaire, ou à ce qui se passe, et ce sera un poison de l'esprit. Maintenant, la vie sexuelle dans le non-attachement ou la non-saisie. Et entendons-nous bien de ce que nous venons de dire, ça ne signifie pas, au contraire, l'absence d'amour et de stabilité. Mais dans une relation sexuelle, celle-ci se vit d'autant plus profondément qu'elle est sans possession, sans attachement, sans saisie, et qu'elle est de part et d'autre une ouverture, un lâcher prise, un abandon, abandon dans le sens d'un don de soi, d'une offrande. Dans la non-saisie, dans la désaisie. Et cela pourrait se développer aussi dans la vision d'une pratique, on pourrait dire tantrique, de l'amour, dont justement le principal élément et le premier et essentiel est l'absence de saisie. C'est dans l'absence de saisie que se vivent progressivement et de plus en plus profondément les différents niveaux de joie ou de plaisir qui, dans la vision des tantras, culminent dans ce que l'on nomme Mahasukha, qui est la grande félicité. Donc, cela répond aussi peut-être à la quatrième partie de la question, Est-ce qu'il y a un plaisir dans une sexualité libre de fixation et de saisie? La réponse est oui. Et non seulement oui, mais c'est en celle-ci que se trouve l'ultime félicité et l'ultime plaisir. Voilà.
Merci, Rinpoche.
Alors, ce genre de questions peut donner de nombreuses digressions. Donc, n'hésitez pas à relancer les questions, s'il peut permettre d'approfondir certains aspects et de développer.
Eh bien, justement, j'en ai une qui me vient simplement parce que ça peut être, il est possible que de l'entendre comme quelque chose de culpabilisant pour celui qui n'y est pas ou qui n'arrive même pas ou qui est, je dirais, au début de l'entrée de ça, en se disant, voilà, oh, ça me paraît bien loin, une sexualité non attachée où j'ai pas peur de me faire quitter, où j'ai pas peur de la jouissance de mon partenaire, de la mienne. Donc ça peut paraître assez loin. Et quand j'ai entendu le précepte de Thich Nhat Hanh et que vous avez repris parmi les cinq, donc c'est le quatrième sur la sexualité.
Oui.
Et qui disait une sexualité des histoires longues. Dans mon expérience, j'ai pu vivre des histoires courtes, épanouissantes et dans l'échange, et des histoires longues, toxiques et dans la destruction. Donc le côté long et court, est-ce que c'est aussi ancré dans la nécessité d'une stabilité quand peut-être on n'est pas aussi loin que ça, avancé?
Il est important d'aller doucement. Alors, aujourd'hui, on a souvent tendance à développer des relations très rapidement pour se rendre compte que finalement, ça n'était pas une circonstance où la personne où, avec laquelle... Non, une approche lente, plutôt que fast sex, slow sex. Et l'amour, l'empathie est quelque chose qui se développe. C'est une découverte réciproque. Cela demande de se familiariser. C'est pas une relation juste pour le plaisir, un mariage d'une nuit. Et la stabilité, est importante. Est importante dans la relation, est importante aussi socialement. D'autant que dans un couple, il y a toujours des difficultés. On est plus exposé qu'on l'est avec qui que ce soit dans une relation de couple. Et c'est là où les relations sont le plus facilement les plus intenses. Et cela nous donne à travailler, à pratiquer avec ces situations. Et il est important de le faire, de vraiment le faire, plutôt que de zapper et de next one. Et de partir dans une compulsion de répétition avec sa névrose et de recommencer plus ou moins le même scénario avec le partenaire ou la partenaire suivante. Donc, la stabilité, il y a différentes stabilités. Et il ne s'agit peut-être pas nécessairement du mariage monogame ad vitam, mais la stabilité est un élément important, très important.
Merci beaucoup, Lama. Alors, je me tourne un instant vers Internet, juste pour savoir s'il y a des questions. Non, alors je vais donc poursuivre. Alors, une nouvelle question tout aussi anonyme. L'éveil représenté par un sage immobile n'arrive pas à me tenter pour mon chemin de vie. Peut-on être éveillé et actif?
Il y a un malentendu. Pourquoi est-ce un sage immobile? Parce qu'il est représenté dans une statue. C'est sûr que les statues ont un petit côté immobile. Mais le Bouddha Sakyamuni, a eu une vie active, s'il en est, dans sa jeunesse, puis dans son ascèse, puis ensuite, pendant 40 ans, il a parcouru toutes les terres qui lui étaient accessibles dans le Magadha, rencontrant des gens, parlant. Il a été médiateur dans des conflits. Il s'est interposé sur des champs de bataille.
Sur des champs de bataille.
Il s'est interposé sur des champs de bataille. Il a agi. Le Bodhisattva. Protégez-la, mettez-la là sur le. Le Bodhisattva est une personne active. Le Bodhisattva est une personne ouverte, est une personne qui ne dit pas non quand il est appelé, quand il y a une demande. Le Bodhisattva est même, on peut dire, la personne active par excellence. Un Bodhisattva qui serait immobile dans l'isolement. Alors, certaines fois, il peut y avoir des ermites qui pratiquent dans la réclusion, mais ça n'est pas. C'est un exemple et c'est une forme d'activité. Le Bodhisattva est disponible, le Bodhisattva est vaillant, courageux et il est quelqu'un d'éminemment actif. Il vit dans la vie quotidienne et il y a un engagement, il est engagé. C'est ainsi qu'il y a même un dharma engagé, un dharma de Bodhisattva qui, là où il est, fait tout ce qui est en sa capacité pour répondre aux besoins de ses semblables et du monde.
Merci Alain. Et donc encore une question toujours anonyme, c'est uniquement anonyme ce soir. C'est peut-on pratiquer le dharma et vouloir une famille? Et doit-on faire un choix entre les deux?
On peut très bien pratiquer le dharma et avoir une famille. C'est même le cas habituel et normal de tous les pratiquants dans la vie. Donc, il est normal d'avoir et bien d'avoir une famille. Et surtout dans la perspective d'un bodhisattva qui pratique dans la vie, qui pratique en famille, qui pratique dans son activité professionnelle, qui a une activité sociale. Donc, non seulement, oui, c'est possible, mais c'est même normal. C'est même normal. Alors, il est possible pour certaines personnes ou à certains moments, comme période d'entraînement ou d'apprentissage, de faire une retraite, de se retirer, de se mettre à l'écart. Et c'est très bien, il faut même savoir le faire. Mais ça n'est pas du tout pour rejeter une vie familiale. Et une vie familiale dans sa famille personnelle, quelle qu'elle soit, et une vie familiale dans le monde, avec tous les vivants qui sont nos parents, nos frères et sœurs, dans une grande famille humaine, donc avec différents niveaux ainsi, mais une vie familiale ouverte, et dans une ouverture du cœur, dans le partage, dans la solidarité, dans la coopération, dans l'amour, dans la compassion, dans l'entraide, dans l'interdépendance, dans l'altruisme, la bienveillance.
Merci. Et donc, encore une question. Le mental est en permanence bombardé de pensées. Pour les reconnaître, voire pour les éviter, entre parenthèses, mais est-ce possible? Quelles sont les caractéristiques des pensées toxiques? Merci.
Le mental est continuellement agité de pensées. Les pensées toxiques sont les pensées passionnelles, les pensées qui sont associées au poison de l'esprit, les pensées d'attachement, de répulsion, d'indifférence, pour reprendre les trois poisons que nous évoquions tout à l'heure. D'une façon générale et détaillée, on peut étudier les fonctions de l'esprit ou dans l'Abhidharma, la phénoménologie bouddhiste, il y a tout un inventaire et un recensement des différents types de pensées en catégories, les vertueuses, les non-vertueuses. Mais vertueux et non-vertueux, non pas dans un jugement ou dans une catégorisation en termes Oui, de jugement, mais et vertueux, ce qui va dans le sens de l'ouverture altruiste, bienveillante, dans le sens de l'ouverture et d'un moins de dualité. Les pensées et émotions, alors, d'amour, de compassion, de bonté, de bienveillance, de participation, de communion. Et sont négatives celles qui vont dans le sens d'une séparation, de plus de dualité, de plus de saisie. Donc, ça, c'est un repère général. Autrement, on peut considérer aussi très simplement les six types de passions ou d'émotions conflictuelles, la colère, la haine, l'avidité, la bêtise, l'indifférence, l'attachement, le désir-attachement, la jalousie et l'orgueil, hein, qui sont les passions des six grands états de la conscience, des six mondes. Donc on a là un repère pour ces différents types de pensées sont pathogènes, source d'empoisonnement, de difficultés, de souffrances. Et les pensées positives alors, sont celles qui vont dans le sens de l'empathie, de la communion, de la participation, le véritable amour, compassion, aussi la confiance, et leurs nuances, l'altruisme, la bienveillance. Donc on peut ainsi discerner les pensées positives, pensées négatives. Néanmoins, par rapport aux pensées qui émergent dans notre esprit, la façon profonde de travailler avec celle-ci dans la pratique méditative et d'apprendre à les reconnaître sans les juger. Apprendre à accueillir ce qui émerge dans notre esprit sans filtre sélectif, sans jugement et en même temps aussi sans suivre, sans donner suite à la pensée. Rester dans l'état de simple observateur neutre et bienveillant qui discerne, lucide, sans amener de jugements mentaux et sans pratiquer sans abonder ni fuir. À ce sujet, on peut se rappeler ce que nous avons chanté tout à l'heure dans les instructions d'autolibération de Padmasambhava. Ici, tout ce qui est mouvement, on le chante ? Et on fera un petit commentaire après. Umzela.
Ici tout ce qui est mouvement, comme les objets du sens interne, toutes les conceptions qui émergent, comme les saints poisons de l'air, ne les invite ni ne les suit, n'entre pas en l'agir du mental, le mouvement laissé en lui-même est libéré en dharmakaya. Ô maître, j'adresse la prière que la cognition s'auto-libère.
Bien. Donc, ici, tout ce qui est mouvement comme objet du sens interne. Le sens interne, le sixième sens, c'est le mental. Donc, ici, en nous, en soi, tous les mouvements du mental, et dans le mental conceptuel, duel, toutes les pensées, toutes les conceptions issues des cinq poisons. Les cinq poisons, ce sont les six mondes, les passions des six mondes, dans lesquelles avidité et désir attachement sont comptés ensemble. On passe de 6 à 5. Donc, les cinq passions sont la colère, le désir attachement, l'avidité, l'indifférence, la jalousie et l'orgueil. Donc, toutes ces passions, alors tous ces objets du mental qui se manifestent dans ces attitudes, ne les invite ni ne les suit, ne va pas au-devant, ne les suit pas, ne les fuit pas, n'entre pas dans l'agir du mental, n'intervient pas, n'interagit pas avec ceci, et dans la simple lucidité, le mouvement laissé à lui-même, le mouvement du mental dans lequel il n'y a pas d'interaction, avec lequel on n'interagit pas, le mouvement du mental qui est laissé à lui-même dans le non-agir du mental. Alors, il a sa dynamique, mais l'on n'interagit pas avec cette dynamique. Le mouvement laissé en lui-même se libère en l'ouverture du dharmakaya, en l'ouverture du corps absolu. Donc, c'est là un enseignement très, très essentiel et très profond, qui peut être difficile à comprendre dans toute son extension, mais c'est là le cœur de l'apprentissage et de l'entraînement avec les pensées et les émotions, qui consiste à les accueillir sans jugement. Et comme on le dit par exemple dans la pratique de mindfulness, de pleine présence, d'accueillir la pensée ou l'émotion sans jugement et en la vivant dans la respiration, dans la présence au souffle, et laissant la pensée, laissant l'émotion, et même en apprenant à se détendre, se relâcher dans la pensée et l'émotion, à la voir, voir simplement ce mouvement et se détendre dans celui-ci comme l'incorporant, comme faisant corps avec celui-ci, mais simplement en se détendant et en s'ouvrant. Ouverture et détente vont ici de pair. Et c'est ainsi que se développe l'entraînement qui permet à la fois de se libérer de l'addiction, de l'esclavage, des pensées, des émotions, de se libérer de leur possession, de trouver une véritable liberté par rapport à ce qui nous possède, ainsi en termes de passion et de pensée. De trouver cette liberté et le bonheur de cette liberté aussi. Donc, il y a là un point essentiel, mais d'abord déjà de comprendre les attitudes positives et négatives, ou plus, mieux dit, les attitudes saines et les attitudes malsaines, et pouvoir ensuite travailler avec celle-ci dans cette direction de la pleine présence et au niveau le plus essentiel dans l'autolibération. À ce point, je vous invite à ce que nous concluions par un petit moment de pleine présence, petite pause. Bien assis, confortable, bien dans son corps, dans sa sensation, sentant son souffle, sentant que ça respire. Et dans une présence sensorielle ouverte, le regard ouvert, détendu, panoramique, nos champs sensoriels ouverts, détendus, alertes, et de rester au repos dans cette lucidité ouverte. Relâché, détendu, tout simplement. toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonne soirée, au revoir.